Bonjour à tous, ici Guillaume Lafleur sur les ondes de KRL. Vous écoutez au 7e ciel de 16h à 17h30. On parle de cinéma. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler justement? Je vais essayer de revenir un peu sur un film de Denis Côté, cinéaste dont on a parlé quelques fois au cours de la saison. Son dernier film s'appelle Curling. Il ouvrait entre autres le Festival du Nouveau Cinéma il y a quelques semaines à Montréal. C'est un film qui a une belle carrière en salle, comme beaucoup de films de ce cinéaste ces dernières années, puisque c'est un des cinéastes québécois qui circule le plus dans les festivals dans le monde et qui a peut-être la plus grande réception critique, donc ou la plus large, disons. Ça vaut la peine de s'y pencher encore un peu. Je vais aussi prendre le temps de vous parler un peu, comme je le fais de manière périodique, justement, du cinéma en revue, donc toute la production éditoriale concernant le cinéma qui s'édite au cours des dernières semaines n'est pas nécessairement épiée de mon œil vif, mais quand même, j'essaie de demeurer au courant, de vous informer de ce qui se dit dans le discours critique autour du cinéma contemporain, mais pas seulement. Un peu comme je le fais souvent dans cette émission, je m'intéresse aussi, on s'intéresse aussi au cinéma qui s'est fait puis qui influence encore la production actuelle. Donc, on fait des allers-retours entre passé et présent. C'est un peu le plan de match au 7e ciel. Donc, on va le suivre de près en parlant du cinéma en revue, en particulier autour des derniers numéros de 24 images et des cahiers du cinéma. Ensuite, je vais aussi vous glisser quelques mots à la faveur d'un entretien que j'ai lu avec Jonas Mekas, un cinéaste expérimental new-yorkais marquant depuis la fin des années 50. Il est toujours bien vivant. C'est une des figures qui est à la tête en fait de l'Anthology Film Archives à New York, qui est disons un lieu pionnier pour ce qui est de l'archivation, pardon, et la valorisation de la mémoire du cinéma expérimental et du cinéma d'avant-garde. Donc c'est un lieu qui est comme pratiquement maintenant un sanctuaire du cinéma d'avant-garde, puisque l'avant-garde a une valeur plus historique qu'une valeur contemporaine aujourd'hui. Donc je vais essayer de parler de ce lieu. Qui est vraiment singulier dans le paysage de la conservation du cinéma aujourd'hui, qui a une identité propre. Quels sont les enjeux d'un lieu comme l'Anthology Film Archives aujourd'hui, par exemple dans le monde de la numérisation tout azimut sur les nouvelles plateformes technologiques? Quel est le rôle d'un lieu rassembleur où on fait à la fois de la programmation de films de type cinémathèque et à la fois de la conservation, donc finalement? Finalement, donc un lieu qui met de l'avant l'avant-garde, mais qui est aussi une sorte de cinémathèque en soi. Donc c'est un peu ça le plan de match aujourd'hui. Si vous êtes prêts, moi je le suis et je vous dis à tout de suite.
Thank you.
Oui, on vient d'entendre Benoît Delbecq tirer d'un album qui s'appelle Infoonfairs. Benoît Delbecq est un pianiste d'avant-garde qui, des fois, se laisse porter aussi par la musique pop. C'était pas spécialement le cas dans l'extrait qu'on vient d'entendre, mais du moins, je le précise. Benoît Delbecq, c'est peut-être une bonne manière, ou du moins une manière comme une autre, d'annoncer le film dont je parle à l'instant, donc Curling de Denis Côté. Un film qui est assez intriguant, comme l'est très largement la filmographie que nous propose Côté. Depuis environ 6 ans maintenant, c'est-à-dire qu'avant il avait réalisé plusieurs courts-métrages en fait depuis la fin des années 90, mais il s'est mis en tête de faire un film par an depuis environ 5 ans, 5-6 ans, c'est-à-dire qu'il en a réalisé deux cette année, un qui dure une quarantaine de minutes, que j'ai pas encore eu l'occasion de voir, donc j'ai très hâte de voir, qui s'appelle Les Lignes Ennemies, produit avec des fonds sud-coréens, étonnamment. Denis Côté est un cinéaste, comme je le disais, qui circule d'un festival à l'autre. Et dans ce contexte, il a eu, disons, le soutien d'un festival en Corée du Sud, un festival qui est assez fameux, qui s'appelle Jeonju, en fait le festival de Jeonju, où chaque année, en fait, il y a un aspect important de ce festival qui s'appelle le Digital Project, où donc trois films de trois cinéastes qui, selon les points de vue éditoriaux du festival, comptent dans la production actuelle, sont soutenus par eux et vont réaliser au cours de l'année donc une œuvre assez brève, entre 20 minutes et 40 minutes, disons, qui va s'insérer dans un triptyque qui circule à la suite dans les festivals, en particulier au Festival de Locarno. Il y a une sorte de partenariat entre le festival donc de Jeonju en Corée du Sud et Locarno en Suisse, qui est un autre festival fameux, qui assure une visibilité internationale d'emblée à ce triptyque qui sera réalisé et présenté l'année suivante. Donc, Les Lignes Ennemies, c'est un film qui s'inscrit dans le nouveau triptyque du festival de Jeonju, réalisé par Denis Côté. Et le dernier film, Curling, justement, Rien n'est innocent, a remporté le prix de la mise en scène à Locarno. Tout récemment, donc c'est dire comment il y a des vases communicants entre les festivals qui nourrissent les projets et les soulignent ou les gratifient. Locarno et Jeonju, c'est donc deux festivals où s'est illustré récemment Denis Côté. Pour ce qui est du prix, donc à Locarno, ça concerne le film Curling avec Emmanuel Bilodeau qui, par la même occasion, comme ça, sûrement plusieurs d'entre vous le savez, a obtenu le prix d'interprétation. Une année assez forte, une récolte assez forte cette année pour Côté, et ça vaut la peine de revenir sur Curling. Bon, la première chose que j'aurais envie de dire par rapport à ce film-là, c'est que contrairement à ce que pense son cinéaste, peut-être, c'est toujours plus facile peut-être d'y aller par la négative ou de prendre un peu de distance avec les propos d'un cinéaste qu'on a envie de le commenter. Mais bon, allons-y tout de go. Contrairement peut-être à ce que son cinéaste suggère, c'est du moins dans les premiers. Peut-être dans les premiers interviews qu'il a donné après la réalisation, la sortie de Curling, c'est pas nécessairement un film plus grand public. Je pense qu'il y a peut-être une plus grande linéarité, une plus grande aisance à suivre le récit de ce film-là, mais c'est pas nécessairement un film qui rompt avec la production antérieure de Côté. Bon, cela dit, résumons un peu le film. C'est un film qui, en fait, raconte, encore une fois, l'isolement d'un personnage. Cette fois-ci, ça se déroule à Saint-Hilaire, un personnage qui vit seul avec sa fille, évidemment, un personnage masculin interprété par Emmanuel Bilodeau. La fille est jouée par sa fille, tout simplement, Philomène Bilodeau. Et tous les deux sont représentés tout au long du film dans leurs errances, dans leur passage à vide, propre à l'isolement dans lequel ils se trouvent, finalement. Et en particulier, ces passages à vide sont présentés entourés d'une galerie, disons, peut-être pas une galerie, mais quelques personnages particulièrement truculents, interprétés entre autres par Muriel Dutille. Rock Lafortune, qui est surtout connu pour son rôle dans Les Boys, je pense, et donc une actrice qui joue le rôle de personnage gothique. Et une bonne partie du film aussi se déroule dans un bowling. Et contrairement à ce que laisse entendre le titre, l'essentiel des séances sportives que nous présente le film a plutôt à voir avec les allées de quilles. Mais aussi, il y a quelques séquences dans un curling, évidemment, qui sont des lieux quand même qui, sur le plan visuel, se ressemblent beaucoup. On sait la cinégénie de ce genre de lieu, si on est moindrement habile, si on a moindrement un point de vue de mise en scène appliqué, comme l'a Côté assurément avec ce film. Il y a y a moyen sur le sur le plan de rendre le film très dynamique malgré tout, malgré l'aspect statique des situations, le laisser aller, le passage à vide des personnages, la possibilité de par le curling, par le bowling, de montrer une certaine communauté en action qui se laisse aller dans le sport, etc. J'ai pas besoin de détailler, c'est évident. Donc sur le plan visuel, il y a quand même de l'action qui au sens pur, là, au sens sportif du terme, qui émane du film, ne serait-ce que par les lieux dans lesquels le film se déroule. Donc, je dirais que déjà à ce niveau-là, c'est un film qui est beaucoup plus, peut-être beaucoup plus dynamique, qui est moins hiératique qu'il peut en paraître par rapport au film précédent. Il faut dire que les films précédents de côté, entre autres, faisaient la part belle à l'isolement des personnages, ce qui fait la continuité entre Curling et les films précédents, c'est entre autres l'enfermement ou l'isolement des personnages, leur refus de s'intégrer dans la société, leur repli finalement. Et ce qu'on voit, entre autres, dès son premier film, Les États nordiques, c'est aussi l'idée de laisser quelqu'un, quelque part, d'oublier la mémoire qu'on a pu porter à l'endroit de quelqu'un avec qui on a partagé sa vie. Dans le cas des États nordiques, ça supposait, dans son premier film, il a réalisé il y a 5 ans, que le personnage principal allait porter au nord du Québec le corps d'un cadavre et le laisser comme ça, sans stèle, donc sans enterrement officiel, de manière évidemment illégale. Et toujours dans les films de côté, de manière constante depuis le début, il y a toujours, il y a tout le temps, en fait, il y a des figures de cadavres ou de morts qui sont représentées, cachées dans la forêt, sans statuaire, et qui forcément suggère l'oubli dans lequel se retrouvent aussi les personnages principaux, donc l'envie qui anime les personnages des films de côté de s'effacer, d'être oublié de la société, ben, est renforcé par le fait qu'ils côtoient des cadavres ou en enterrent sans laisser aucun signe, aucune trace. Je dirais que par rapport à, disons, à un film, par exemple, de Bernard Raymond qui a été réalisé dans les années 90, qui s'appelait, je sais pas exactement le titre, mais qui s'appelait Ceux qui... partant. En tout cas, le titre suggérait, c'est un titre assez long, puis ma mémoire me fait défaut, mais ceux qui font pas de bruit, c'est quelque chose comme Ceux qui font pas de bruit partent sans laisser de traces. Je pense que c'est le titre exact d'un documentaire sur des pauvres gens qui, finalement, parce qu'ils appartiennent à une certaine communauté populaire, peu valorisés en société, parce qu'ils sont indigents, parce qu'ils sont pauvres, forcément seront oubliés et peut-être aussi mourront sans qu'on leur laisse l'occasion d'avoir une stèle ou disons une pierre tombale à leur effigie. Et ce désir d'effacement et ce désir de mort finalement qui anime les personnages des films de côté sont assez connexes avec ce milieu aussi qu'essaie de représenter Aymon dès les années 90, sauf que c'est certain que Denis Côté n'est pas en train de dépeindre la communauté ou d'avoir une communauté avec un discours social très précis sur celle-ci. Donc, il n'y a pas nécessairement un programme politique ou social qui habite les films de Côté. Et j'ai envie de revenir donc pendant ces quelques minutes sur Curling aussi, parce que il est toujours un peu difficile de parler des films au moment où ils sortent. Et même les cinéastes qui en parlent peuvent revenir sur ce qu'ils ont dit au moment de la sortie et dire autre chose à propos du film qu'ils viennent de faire, après un peu de réception, après un peu de commentaires critiques dans la presse, les radios, les médias. Et c'est vrai que je parle aujourd'hui de Curling parce que, premièrement, je l'ai pas vu avant la semaine dernière. Depuis que je fais cette émission de radio, on dirait que j'ai plutôt envie d'être un peu dans l'inactualité, donc pas nécessairement participer au brouhaha qui accompagne souvent la sortie des films. Mais aussi, j'en reparle maintenant parce que j'ai eu l'occasion de lire un entretien dans 24 images, tout nouveau 24 images dont je vais parler un peu plus tout à l'heure, qui vient de sortir, donc la Revue québécoise de cinéma, qui est peut-être la plus étayée sur le plan critique et qui contient les entretiens avec les cinéastes les plus développés et les plus fouillés. Bon, il y a un entretien avec Denis Côté dans le nouveau numéro, et Côté, justement, prend un peu de recul avec ce qu'il avait dit au moment de la sortie, entre autres... dans la revue Cinémascope, une revue ontarienne de cinéma excellente, qui avait mis de l'avant le film Curling en faisant sa couverture plus tôt, en fait en septembre, au moment du Festival de Toronto. Maintenant, contrairement à ce qu'il disait dans Cinémascope, où il affirmait justement que c'est un film beaucoup plus grand public, puis c'est un peu un quitte au double pour lui, en ce qui concerne le bassin de public qu'il espère toucher. On sent déjà qu'il a fait un peu son deuil, même si c'est un film qui a eu un succès apparemment plus grand que tous les autres films qu'il a pu sortir dans les dernières années. Il a fait un peu son deuil de l'idée, sans doute un peu fantasmatique, que cette œuvre-là était plus populaire, même s'il est certain qu'elle a quand même rejoint un plus grand public. Et déjà, il parle de ses prochains projets qui iront davantage dans le sens des propositions radicales précédentes, entre autres son film Carcasse qu'il avait réalisé il y a un an et demi, ou plutôt pratiquement 2 ans, qui mettait en scène donc un personnage qui s'appelle Louis-Jean Colmar. Déjà son nom de famille semble porter en lui pratiquement le portrait que je fais de la plupart des personnages qu'on voit dans les films de Denis Côté, donc des personnages qui sont habités par une certaine morbidité, un certain goût de l'état morbide. Donc Colmar est quelqu'un qui s'occupait littéralement d'une cour à scrap en banlieue de Montréal, en fait à Longueuil, et qui vit dans un monde pratiquement fermé sur lui-même, bien que parfois il a des clients qui viennent lui acheter des pièces de voiture. Il est entouré de bagnoles qui pratiquement, possiblement, ne serviront plus à rien puisqu'ils ne sont plus utilisables. Donc, Colmar vit entouré d'artefacts, de corps morts, c'est le cas de le dire, au niveau moins littéral peut-être que dans d'autres films de Côté, quoiqu'il y ait quand même un cadavre qu'on va voir plus tard dans le film. Donc, cette idée peut-être de se rapprocher davantage du documentaire et de l'étrangeté de ces personnages qu'il va puiser dans le réel semble être le prochain projet de Denis Côté, ou en tout cas la ligne directrice qu'il a proposée avec Carcasse qu'il a envie d'approfondir. Et c'est vraiment intéressant qu'il fasse cette réflexion aujourd'hui après, disons, le demi-succès public et le succès du film, disons, à un niveau plus large, c'est-à-dire un succès esthétique et un succès narratif peut-être plus évident, ne serait-ce que parce que le résultat est accessible. Donc c'est intéressant qu'au lieu de réagir en voulant faire un nouveau film qui ouvrira encore davantage le champ d'un public à conquérir que le fait déjà Curling, Côté veut creuser son sillon. Donc il y a l'idée quand même d'une démarche sensible et personnelle, un peu singulière, qui nourrit la production de ce cinéaste-là. Et ne serait-ce qu'en ce sens, ça vaut la peine de le suivre de plus près. Et en l'occurrence, on s'en reparle bientôt, peut-être à propos des lignes ennemies que j'évoquais à l'instant, justement. À tout de suite.
C'est KRL 89.1. Cultive tes goûts.
Plus de 70 000. C'est précisément le nombre de personnes qui écoutent CKRL 89.1 dans la grande région de Québec et les environs. Depuis 1973, grâce à vous, CKRL se construit, se bâtit, évolue et grandit. Toujours à l'écoute. Aujourd'hui, la plus vieille radio communautaire en Amérique du Nord, voire même dans le monde, CKRL est toujours là. Grâce aux milliers d'animateurs, de réalisateurs, de collaborateurs qui ont animé ces ondes. Et grâce à vous, auditeurs et auditrices toujours nombreux, toujours à l'écoute. Merci de laisser CKRL 89.1 cultiver vos goûts depuis 1973.
Tous les jours de la semaine, de 13h30 à 15h30, Le Cercle vous présente l'émission Nouveau Cru sur les ondes de CKRL. Des après-midi dédiés aux nouveautés d'ici et d'ailleurs au pays. Une programmation résolument actuelle à l'image du Cercle.
Cercle. En décembre, dans le cadre de Relève en Capitale, la soirée Match d'impro en danse le 9, le brunch musical avec Zestambo et la conférence Pêche à couchant en soirée le 12. Soirée Prends à court le 13 dès 20h. Sans oublier les concerts événements de Casabon et Invité le 21, suivi de Midnight Romeo le 22 décembre dès 21h. Le Cercle, 228 Saint-Joseph-Est, 88-948-8648. Le-cercle.ca.
C'est KRL 89.1.
Le matin dès 6h, heures, 7 jours sur 7, notre directeur musical Daniel Marcoux vous concocte une sélection toute francophone. Réveillez-vous en français d'abord au 89.1.
Guillaume Lafleur avec vous sur les ondes de CKRL. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de cette émission d'une heure trente qu'on fait toutes les semaines, sauf contrainte, comme la semaine dernière, mais 16e ciel, regarde sur les cinémas, c'est le rendez-vous cinématographique, radiophonique, hebdomadaire. On a parlé un peu de curling de Denis Côté dans la première demi-heure. La deuxième demi-heure est consacrée à une section de l'émission que je reprends à peu près aux deux mois ou au mois et demi selon la sortie des périodiques de cinéma. Donc le cinéma en revue. Là, j'ai envie de parler un peu de 24 images donc, que je présentais tout à l'heure comme étant la revue peut-être la plus étoffée en termes d'actualité cinématographique ou de propos critiques sur l'actualité du cinéma qui se publie au Québec. En fait, dans 24 images, ce mois-ci, c'est assez intéressant de constater qu'il y a une sorte de contraste avec la une du numéro précédent. Si vous vous en souvenez bien, j'en avais parlé ici, c'était à propos de l'ONF de demain, tout un dossier qui questionnait finalement les avenues, les nouveaux chemins de traverse qu'allait prendre l'Office national du film du Canada dans les prochaines années et qui impliquait à la fois de faire intervenir les créateurs proches de l'Office national du film du Canada ou qui se sentent au moins proches de l'Office en termes de complicité ou de parenté artistique, une parenté artistique au long cours évidemment, là, parce que si on circule dans l'histoire du cinéma québécois, on se rend compte que dans les années 60, une grande part de ce qui s'est fait relevait de la production de l'Office national du film du Canada, et dès lors, si on a été un peu marqué par cette période, on en est forcément tributaire encore aujourd'hui, même si on s'en est détaché, je parle des créateurs de films aujourd'hui qui peuvent avoir leur mot à dire sur les suites de l'Office national du film du Canada, qui devrait sans doute déménager dans les prochains mois. C'est entre autres ce que m'apprenait dans les prochains mois, peut-être les prochaines années. Là, il va falloir voir comment les plans d'urbanisme et les projets de mise en chantier se développent. Mais donc l'Office déménagera au centre-ville. Ça reste à voir. Et évidemment, c'est un sujet qui nous touchait immédiatement parce que c'est l'avenir d'un lieu de production emblématique de l'histoire du cinéma québécois qui est en jeu lorsqu'on crée un dossier semblable. Maintenant, le numéro de ce mois-ci, ben, c'est peut-être parce qu'on approche de Noël, on a envie de se faire un cadeau, ou le comité de rédaction avait envie de se faire un cadeau, du moins, c'est consacré à Alain Resnais. Donc Alain Resnais, qui, pour ceux qui auraient vaguement une idée de son travail, je m'excuse d'avance pour les gens qui sont évidemment au courant, mais Resnais est une des figures sans doute majeures du cinéma tel qu'il s'est fait depuis une cinquantaine d'années avec une poignée de personnes, Orson Welles, Antonioni, Jean-Luc Godard. Bon, des noms que je cite souvent, mais ça demeure des références. Évidemment, on ne parle pas ici du cinéma qui s'inscrit dans un système, mais plutôt d'une certaine idée du cinéma d'auteur qui a pu se faire au cours des 50 dernières années, et donc d'un cinéma qui fait toujours réagir finalement le milieu de la cinéphilie et qui fait avancer d'une certaine façon le cinéma et remet en jeu finalement la place du film dans le monde qu'on vit, qu'on subit, je sais pas comment le dire. Et Resnais, ça fait partie de ces cinéastes qui ont pris à bras le corps, en fait, l'histoire contemporaine pour en dire quelque chose. Dès le milieu des années 50, il y a évidemment ce film qui est incontournable sur les camps de concentration, qui est peut-être une des premières œuvres vraiment significatives sur le sujet, du moins d'un point de vue documentaire, mais du point de vue fictionnel, encore moins sans doute. C'est le film Nuit et brouillard, qu'il a réalisé à partir d'un montage d'archives qu'il est allé chercher. Il est allé puiser ses archives à Londres, entre autres, parce que c'était peut-être le lieu où les images de guerre, et en particulier les images liées au camp de concentration, étaient le plus accessibles. Il y avait la plus grande concentration d'images sur cette période sombre de l'histoire contemporaine qui se trouvait là, finalement. Donc, d'une part, Resnais a fait ce travail assez exceptionnel de monteur, finalement, de l'histoire contemporaine. Il a mis en image un pan terrible de notre histoire récente. Et à ce titre, il passe déjà à l'histoire et il a un rôle majeur dans la production contemporaine encore aujourd'hui. Mais c'est aussi quelqu'un qui, ensuite, a continué son chemin en ayant en tête, disons, la production cinématographique qui se disait engagé. Et on peut pas dire que le cinéma de René était un cinéma engagé, même si au passage il a côtoyé des scénaristes qui se sont davantage commis, disons, dans le cinéma engagé, en particulier Georges Samproune dans les années 60, puisqu'il a travaillé avec ce scénariste qui est aussi écrivain, qui est aussi un résistant espagnol qui a connu justement les camps de concentration et qui était un des principaux scénaristes de Costa Gavras, qui est peut-être le cinéaste emblématique d'une certaine manière de faire du cinéma engagé ou du cinéma de gauche, qui est aussi un spectacle. Donc le projet de Costa Gavras, c'était peut-être en réalisant des films comme Z ou L'aveu, d'aller atteindre le plus grand nombre de spectateurs en leur faisant comprendre des causes qui relèvent finalement de l'idéologie de la gauche de son temps. Donc une idéologie progressiste et entre autres une contestation des totalitarismes et de l'emprise de ces totalitarismes, de leurs liens en fait avec entre autres les pouvoirs politiques américains, une critique de l'impérialisme, etc. Donc Samproune était de ce côté-là des choses, et avec René déjà, quand il réalise La guerre est finie, Alain René avec Samproune au scénario en 1966, un film qui met en scène entre autres Yves Montand et la Québécoise Geneviève Bugeaud, questionne la position, entre autres, de la France par rapport à la guerre d'Espagne, par rapport, disons, au pouvoir franquiste, plutôt fasciste espagnol de l'époque. Et donc, c'est aussi un film d'espionnage, mais un film politique d'un type particulier qui remet vraiment en cause la manière de faire ce genre de film de façon linéaire, comme on était supposé de le voir. Donc, puisqu'il s'agissait, entre autres, pour un scénariste comme Samproune ou pour un scénariste comme Gavras, d'aller chercher la plus large audience possible afin de leur faire comprendre une situation politique actuelle troublante, choquante. Donc, éveiller les consciences, c'était un peu le plan de match d'un cinéaste comme Gavras. Et René, c'est plutôt quelqu'un qui travaille la forme, qui travaille la narration. Et par conséquent, il déplace un peu le projet de Samproune vers un film qui serait aussi sous l'influence du nouveau roman, donc des expérimentations formelles, des expérimentations narratives, du jeu sur l'espace et le temps. Et finalement, La guerre est finie, ça devient un film, La guerre est finie étant la guerre d'Espagne, ça devient un film qui est davantage sur la mémoire, à la fois la mémoire de cette guerre d'Espagne qui va mener au fascisme de Franco, mais aussi l'emprise de la mémoire sur un personnage, l'emprise qu'est la mémoire de cette guerre sur un personnage qui essaie de se débattre avec des gens qui autour de lui veulent justement effacer toute trace liée à cette guerre et toute blessure qu'aurait pu provoquer cette guerre. Donc tout à coup on change de registre, là. On n'est plus dans une suite linéaire d'enchaînement d'actions qui consiste aussi à éveiller les consciences en montrant le bon et le mauvais camp, mais on voit aussi un personnage tiraillé par la volonté de demeurer, donc ce personnage joué par Yves Montand, la volonté de demeurer fidèle à cette mémoire qu'il veut vengeresse ou qui veut lui permettre de faire le bien, si on veut, et l'impasse dans laquelle il se trouve socialement, puisque personne n'en a rien à cirer de cette mémoire-là. Ou en tout cas, il y a beaucoup d'obstacles liés au fait de demeurer fidèle ou juste face à cette mémoire culturelle. Qui est effacée, évidemment, toujours par le fascisme. La première chose qui tombe, c'est la culture et la possibilité de penser autrement que selon le chemin tracé par le pouvoir et l'État. Donc, disons, ce n'est simplement qu'une partie infime de ce qu'a pu faire René, de ce qui a été son apport au cinéma dans les années 60. Et c'est clair aussi qu'Alain René, c'est un cinéaste qui est allé ailleurs. Donc, après avoir pris à bras-le-corps des questions qui relevaient de la politique contemporaine avec La guerre est finie, avec auparavant un film comme Hiroshima, mon amour, qui est peut-être un des premiers films de fiction à mettre en scène à la fois la situation dans laquelle se retrouvent les personnages qui ont connu Hiroshima et qui vivent un trauma, et ceux qui ont vécu aussi un trauma, en particulier celles qui ont été collaboratrices pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui ont été humiliées à la libération. Donc, toutes ces femmes tondues, comme on les appelait, et comme on leur faisait subir la tonte, donc on leur enlevait les cheveux et elles devenaient des parias dans leur région, dans leur ville ou leur province, parce qu'elles avaient couché avec l'ennemi. C'est un film là-dessus, en fait, sur la rencontre d'un survivant d'Hiroshima et d'une paria. Donc, qui n'était pas du bon côté. Un film encore extrêmement troublant, écrit par Duras, qui prend l'histoire à bras le corps, très courageux. Par la suite, le cinéma de René, peu à peu, je dirais à partir de la fin des années 60, avec un film comme Je t'aime, qui est assez peu connu, avec Claude Rich, qui est l'histoire d'un, qui est l'histoire finalement d'un personnage qui voyage dans le temps et qui revient toujours dans les mêmes situations parce que il ne veut pas mourir finalement. Donc il veut chérir la mémoire d'un amour défunt. Finalement, un scénario qui rappelle vaguement Inception, le blockbuster de Christopher Nolan sorti plus tôt cet été, mais peut-être que l'analogie s'arrête là. Moi, sur le plan du scénario, il y a des préoccupations semblables. Peu à peu, René va expérimenter des je t'aime, disons, un filon beaucoup plus travaillé simplement par des questions soit d'ordre métaphysique, donc la mémoire d'un personnage, sa subjectivité, son inadéquation au monde contemporain, une question qu'il creusait déjà dans Hiroshima, mon amour et la guerre finie, mais qu'il rend un niveau de cinéma de science-fiction à partir de 68 qui donc le détache un peu de la réalité contemporaine. Puis ensuite, à partir, je dirais, des années 80, son cinéma va davantage lorgner du côté du théâtre. Et bizarrement, et là, peut-être que j'irai vite en affirmant une chose semblable, on a l'impression, du moins au premier abord, que le cinéma d'Alain René devient plus proche d'une certaine bulle, donc d'une réalité fermée, qui ne serait pas d'une sorte de cloison, de petit univers, un monde fantasmé qui ne serait pas nécessairement en dialogue direct avec la réalité de la vie courante. Et c'est d'autant plus flagrant que son cinéma devient de plus en plus influencé par le théâtre. Donc le jeu des acteurs est marqué par un jeu de théâtre et les acteurs justement de ses films sont souvent des acteurs aussi qui excellent au théâtre. Donc des gens comme André Dussolier, Pierre Arditi, Sabine Azéma. Et dans 24 images, on s'attarde beaucoup finalement sur cette période de son cinéma. Je dirais que, du moins moi en tant que lecteur, c'est là où j'ai accroché le plus en lisant le dossier, dans la mesure où j'ai l'impression que le cinéma de René, tel qu'il se pratique, tel qu'il le fait depuis les années 80, appelle encore beaucoup de commentaires, tandis que les œuvres canoniques que j'ai notées tout à l'heure des années 60 ont été extrêmement commentées, et entre autres par quelqu'un de très clairvoyant et qui a su saisir toute la moelle esthétique et philosophique qui s'y trouvait. Je parle du philosophe Gilles Deleuze, qui, dans ses commentaires sur René, est tellement éloquent que c'en est quasiment plus intéressant que ces concepts qu'il essaie d'illustrer à partir des films de René. Donc, ces films-là avaient été extrêmement analysés, et à partir des années 80, ben forcément, peut-être que les propositions de René se perdent dans une certaine imagerie Bontemps qui avait cours à l'époque et semble en décalage avec la réalité contemporaine, de telle sorte que il y a sans doute eu moins d'envie d'analyser ces films pour saisir quelque chose de l'époque, qui est toujours une approche vraiment excitante pour un critique de cinéma, avoir l'impression que tout à coup on peut accompagner un cinéaste qui nous en apprend sur notre temps. C'est une des joies du travail critique au cinéma. Les films de René donnaient pas cette emprise à partir des années 80. Et par ailleurs, dans le dossier de 24 images, pour y revenir et peut-être pour terminer là-dessus, on voit comment les films d'Alain René, dès lors, dès les années 80, avec des œuvres comme La vie est un roman, avec Fanny Ardant et André Dussolier, des films comme Mélo, des films comme En 86, ou encore un film comme Smoking No Smoking, qui est une sorte de diptyque de 4 heures où plusieurs situations sont répétées avec des développements aléatoires ou des développements avec des variations. Chaque fois, on retrouve plus ou moins les mêmes acteurs et ça crée littéralement une troupe. Et c'est aussi à ce niveau-là que le cinéma d'Alain René devient un peu un cinéma qui semble en autarcie, donc un peu fermé par rapport à la vie courante. Il crée une troupe, il recrée un monde. Et ce qui est très différent, évidemment, que son approche des années 60, qui supposait justement de prendre le monde à bras-le-corps au moment où il fallait le faire, parce que convergence, contexte historique lui donnait finalement pour mission à René d'aborder des situations extrêmement graves au sortir de la guerre. Cette bulle-là, ben, c'est dans les commentaires que je lis de 24 images que je me rends compte à quel point elle pourtant relance un peu le cinéma contemporain. Et je peux seulement vous suggérer d'aller voir, pour terminer, un film qui s'appelle Les Herbes Folles, que l'on retrouve maintenant sur DVD, qui me semble montre toute l'élégance, la finesse et le goût de l'innovation qui anime encore le cinéma d'Alain Resnais au niveau de la narration. Et entre autres, c'est peut-être une des lignes directrices qui illustre bien le titre, Les Herbes Folles, avec lesquelles on peut suivre le projet de ces derniers films. Les Herbes Folles résumeraient peut-être un peu le cinéma que Resnais fait depuis les années 80. Illustrer des trajets, des parcours, des destins qui sont imprévisibles et par cela même, remettre en jeu la narration au cinéma, avoir encore le goût du risque. Alain Resnais a aujourd'hui 86 ans et c'est pas la moindre de ses élégances de continuer à risquer sa vie en tant que cinéaste en faisant des films aussi audacieux.
24 heures d'art audio et de nouvelles musiques. À CKRL, dès midi, le jeudi 30 décembre prochain.
Pour sa 25e année, le Bal du Lézard poursuit sa mission de faire découvrir au public des artistes et groupes de la relève. Le tout dans l'environnement unique du bal et devant une clientèle qui a soif de nouveaux sons, tout genre confondu. En décembre, ne manquez pas Jazz avec 4-in-1 le 3, Andrea Ramolo le 7, les Battle Slack le 9, le party des 25 ans du bal avec spectacle amateur et DJ le 11, Rodéo Mécanique le 18 et le 31, la soirée Bye Bye 2010. Le bal du Lézard, 1049, 3e avenue.
Il y a des traditions qu'on oublie et d'autres que l'on redécouvre. Comme celle du gâteau aux fruits revisité pour le temps des fêtes par la boîte à pain Café Napoli. Un savant mélange de canneberge, d'abricots, de raisins, de dattes et de noix de Grenoble avec une pointe d'épices. Une recette succulente et une fraîcheur renversante qui sèmera la joie dans votre entourage. Vous avez jusqu'au 22 décembre pour profiter de cette offre festive et passer votre commande pour un gâteau complet deux jours à l'avance à la boîte à pain Café Napoli au 88-977-7571. Notez qu'il sera également possible de les déguster sur place jusqu'au 24 décembre.
Quels albums peuvent être considérés comme les meilleurs de 2010? Les jeudis 9 et 16 décembre, Benoît Arcan, collaborateur de l'émission Avant 9h, Tout est possible, tente de répondre à cette question en vous dressant son palmarès musical. Quels albums s'y trouveront? La réponse entre 7h45 et 8h15, les jeudis 9 et 16 décembre, sur les ondes du 89.
Oui, on vient d'entendre Coleman Hawkins et on arrive à la dernière demi-heure du 7e ciel, un peu plus garni musicalement cette semaine, même si j'ai pas pu faire autrement que parler à peu près 15 minutes d'Alain René, mais c'était plus fort que moi. Donc, dans la dernière demi-heure, j'ai dit qu'on allait surtout parler des cahiers du cinéma. Ben justement, il y a un lien à faire entre la dernière fournée, si on veut, de 24 images et celle de la revue des cahiers du cinéma, qui est un peu, disons, la revue emblématique de la cinéphilie en France et qui reste une référence au moins pour avoir de manière constante une sorte d'état des lieux du cinéma contemporain, évidemment au-delà de la France, mais au niveau une sorte de cartographie internationale qui est toujours subjective et qui est le fait d'un comité de rédaction, mais qui est quand même assez intéressante à suivre de près. Donc, dans les cahiers ce mois-ci, il est question en une. En fait, la une est une question. Une série de portraits de cinéastes avec des points d'interrogation sur leur visage. Il y a exactement 13 portraits avec des points d'interrogation sur leur visage à chaque fois, donc des photogrammes. Et le titre, on va de la page « Demain, ils feront le cinéma français ». Bon, un ton un peu péremptoire qui est aussitôt désamorcé par l'éditorial qui est signé, si je ne m'abuse, je vérifie à l'instant de Stéphane Delorme, qui est le rédacteur en chef. Donc, aussitôt désamorcé par lui, puisqu'il indique qu'il s'agit évidemment d'un pari et non pas d'une affirmation péremptoire à prendre de but en blanc. Mais on n'est pas loin de les croire quand même, puisque il y a une prétention qui va avec le choix de faire une semblable. Maintenant, c'est amusant de voir que le dernier numéro de 24 images est au contraire consacré en une à Alain René, donc un beau portrait d'Alain René dessiné par un des illustrateurs invités par la revue 24 images. Entre autres, je sais que dans ce numéro, il y a deux portraits d'Alain René qui sont successivement illustrés, successivement proposés par Claude Cloutier, qui est un cinéaste d'animation fameux qui travaille à l'Office national du film, dont on présentait un film au sommet du cinéma d'animation il y a quelques semaines. Et l'autre portrait est proposé par Théodore Huchev, qui est un peu un des autres cinéastes majeurs d'animation qui œuvre en ce moment à l'ONF, dont j'ai déjà parlé abondamment, entre autres le réalisateur des journaux de l'IPSET. Donc quelqu'un qui recycle des archives un peu de façon un peu novatrice, tout en suggérant une filiation effectivement avec le travail de René dont je parlais tantôt. Donc, travail de mémoire dans le dossier principal de 24 images, alors que les cahiers du cinéma tentent plutôt de faire de la prospection, tentent plutôt de proposer une sorte de tableau de ce que serait l'avenir du cinéma français, ou du moins d'un point de vue non pas spécifiquement industriel, mais d'un point de vue davantage stimulant pour la cinéphilie et la critique. C'est vraiment deux perspectives différentes, et c'est intéressant, évidemment, de remarquer que dans l'éditorial de Stéphane Delorme, il est question des cinéastes qui ont semblé peut-être dans la dernière année les plus stimulants et qui ont été mis de l'avant par les galeries du cinéma. Et si on regarde attentivement, on peut remarquer que dans les derniers mois, en effet, il y a eu une consacrée à Alain René. C'était plus tôt, je crois que c'était au début de l'été, peut-être même un peu avant, au printemps. Il y a aussi une qui avait été consacrée à Francis Ford Coppola, qui n'est pas spécialement un jeune cinéaste débutant, mais plutôt un cinéaste qui revient. C'était ce qui était d'ailleurs annoncé en une des cahiers du cinéma, le retour de Coppola, ou plutôt Coppola revient en force, quelque chose comme ça. Coppola. Donc Coppola de nouveau au premier plan. Et c'était alors la sortie de son film Tétro. Stéphane Delorme souligne donc dans son éditorial à quel point peut-être que les cinéastes les plus stimulants cette année qui ont été mis de l'avant par les cahiers du cinéma étaient finalement des gens qui avaient plus de 70 ans. Ce qui est quand même assez inquiétant pour quand vient le temps de faire un état des lieux de la cinématographie internationale, de s'en tenir à des productions de cinéastes plus tout jeunes. Mais peut-être qu'on peut comprendre ça autrement, peut-être aussi que c'est une manière de refuge que d'aller voir chez les vieux cinéastes encore novateurs ce qu'ils ont à dire sur le monde contemporain, parce qu'ils font le lien avec ce qu'a déjà été le cinéma auparavant, c'est-à-dire peut-être une forme d'art qui a inondé le 20e siècle de ses productions, qui a un peu dominé la production artistique, ce qui n'est plus exactement le cas, ne serait-ce que parce que la force du film a été plus forte que le cinéma. Les films, on les retrouve un peu partout. Parfois, elles sont déclinées en forme de télésérie. Parfois, elles essaiment même sur les plateformes de diffusion du web. Donc, la salle de cinéma
à laquelle a été rattaché le cinéma pendant si longtemps, mais n'est plus nécessairement le centre ou le pivot par lequel on peut penser à un renouvellement de la forme audiovisuelle. Et quand on est cinéphile, quand on a en tête aussi l'histoire du cinéma, c'est peut-être une bonne chose d'aller voir chez les vieux novateurs qui permettent de faire le lien entre ce que le cinéma a été et ce qu'il peut devenir. Maintenant, c'est bien beau de s'en tenir à des zones refuge, mais des fois, il faut aller un peu de l'avant. Et c'est un peu ce qu'essaie de faire Lickey dans ce nouveau numéro. Évidemment, c'est en mettant aussi de l'avant des cinéastes dont on a très peu vu le travail, c'est de la spéculation. Peut-être que le cinéaste qu'on connaît le plus ici au Québec, c'est Riyad Satouf, parce qu'il a réalisé un film qui s'appelle Beau Gosse, qui a été distribué ici il n'y a pas si longtemps. C'est plutôt des promesses des réalisateurs qui ont fait des courts-métrages et qui vont bientôt passer au long. Et en l'occurrence, ce que fait les Cahiers en mettant de l'avant le cinéma français ce mois-ci est en fait une entreprise qui a été mise en place il y a déjà plusieurs mois en essayant de faire un panorama de ce que seraient les jeunes cinématographies actuelles, où va le cinéma réalisé par des jeunes, quelles sont les propositions au niveau international que font certains cinéastes. On sait qu'il y a quelques années, il y a le cinéma roumain qui a émergé, qui a été une véritable surprise, une véritable bombe dans le milieu de la cinéphilie, qui a donné lieu entre autres à une palme d'or donnée à Christian Mungiu, le sénateur roumain, il n'y a pas si longtemps encore. On sait aussi que dans les Cahiers, il n'y a pas plus tard que deux mois, il y avait un dossier consacré au cinéma québécois, ce que Stéphane Delorme souligne encore une fois dans son éditorial, comme une piste à suivre. C'est-à-dire que le cinéma québécois serait encore peut-être un de ces lieux où en ce moment il se fait quelque chose d'intéressant qu'il faut suivre, mais c'est une promesse. Et donc, il y avait eu quelques textes publiés dans les Cahiers sur Denis Côté, entre autres, dont je parlais en début d'émission. La promesse d'un cinéma encore à faire, c'est un peu les bases sur lesquelles se fondent les dossiers de cinéma ces mois-ci dans les revues. Et un autre aspect intéressant dans ce numéro des Cahiers du cinéma, c'est la place accordée à d'autres cinéastes qui sont pas exactement des aînés et qui sont pas non plus des nouveaux venus. En particulier, un cinéaste japonais que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Takeshi Kitano. J'y porte attention parce qu'il est assez significatif d'une manière dont se fait un peu le cinéma aujourd'hui. Kitano, c'est quelqu'un qui a commencé dans les années 70, qui est surtout connu d'abord comme un personnage burlesque et personnage populaire au Japon, et qui a eu peut-être son premier rôle significatif, sérieux, au cinéma dans le film Good Night, Mr. Lawrence, qui est un film de Nagisa Oshima, dont j'ai déjà parlé ici à cette émission, un des cinéastes les plus subversifs et les plus stimulants, les plus inventifs que le Japon a eu depuis les années 60. Et ce film-là était avec David Bowie et Kitano, un film de guerre qui se déroule en Nouvelle-Zélande. Maintenant, depuis ce temps-là, Kitano était surtout connu au Japon. En fait, depuis ce temps-là, c'est-à-dire que le film Mr. Lawrence a été réalisé en 82, 83, si je ne m'abuse. Et entre cette réalisation et la fin des années 80, Kitano est surtout connu comme animateur télé, comme producteur aussi de télé. Et il y a une entrevue qui est faite dans le numéro des Cahiers du cinéma avec son principal associé à titre de producteur pour la boîte qu'il dirige en fait et qui produit ses films, les films de Takeshi Kitano, qui s'appelle Office Kitano. Office Kitano, c'est quoi? Ben, c'est une boîte de production qui permet à Takeshi Kitano de faire des films qui n'ont rien à voir, mais alors là, absolument rien à voir avec les émissions burlesques, populaires qu'il peut faire par ailleurs. Donc imaginez, c'est un peu comme si quelqu'un du type de Guillaume Lepage, très connu, décidait, au lieu de faire des comédies populaires comme il le fait en ce moment, bientôt en salle, Lapa, dont sans doute je ne vous parlerai pas à cette émission, mais quand même, malgré tout, la tonitruante force médiatique et publicitaire me mène à en parler quand même, ne serait-ce qu'en l'évoquant. Ben, c'est un peu comme si Lepage, tout à coup, se mettait à faire de la réalisation et au lieu de faire un truc genre Lapa ou Camping Sauvage et autres productions sans intérêt d'un point de vue du cinéma comme forme d'art, décidé au contraire de faire un film influencé par Fellini avec des références qui allongent plus du côté de Woody Allen ou du cinéma expérimental que du film commercial premier degré. Donc c'est assez difficile à imaginer et c'est pourtant la posture qu'occupe Kitano au Japon. Ça s'est fait de manière progressive, donc c'est ce qu'explique bien, pardon, son associé dans l'interview qu'on peut lire dans le Cahier du cinéma ce mois-ci. Ça s'est fait progressivement. En fait, Kitano devait jouer dans un film, mais finalement, il s'est fait confier la réalisation par une suite de quiproquos et de situations inattendues. Et à partir de là, il a commencé à s'intéresser davantage au cinéma comme forme, comme moyen d'expression, et il a vraiment départagé le cinéma qu'il faisait, dans lequel il jouait et qu'il réalisait, de sa vie publique comme personnage médiatique au Japon. Et il est arrivé ce paradoxe, c'est qu'au milieu des années 90, finalement, Kitano commençait à être très connu, en fait, en Europe, entre autres, et en Amérique du Nord, parce qu'il réalisait des films qui étaient couronnés de prix dans les festivals, en particulier un film qui s'appelle Anabi, réalisé en 95, qui a remporté, si je ne m'abuse, le Lion d'or ou le prix de la mise en scène à Venise. Alors, je crois que c'est le Lion d'or. Donc, finalement, Kitano s'est retrouvé dans une situation où ménager sa vie de personnage public pour se faire une carrière de cinéaste qui l'intéressait sans doute davantage et qui allait être plus proche de sa sensibilité, ne serait-ce que parce qu'il y a souvent une dimension autobiographique ou intime qui affleure dans tous ses films. Donc, la société de Kitano explique bien comment il a fallu finalement créer un contexte, un dispositif dans lequel ces films pouvaient être faits, et ça n'impliquait pas nécessairement qu'ils aient du succès, mais plutôt une reconnaissance dans les festivals. Donc c'est assez particulier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'explique bien la société de Kitano, des films qui se font ne sont pas nécessairement rentables, mais peuvent se faire parce qu'il y a un système qui se met en place, entre autres, par les festivals, qui les rend viables. Et cette viabilité-là, ben, elle est possible aussi parce que il y a un milieu du cinéma qui veut mettre de l'avant le cinéma comme forme d'art et comme patrimoine. Et on dépasse à ce moment-là l'idée de la rentabilité. Bon, premier élément, peut-être, ou deuxième élément des cahiers du cinéma qui me semble important. Je vous reviens tout de suite avec le troisième.
Keep on.
Oui, dernière partie de l'émission 7e Ciel, Guillaume Lafleur avec vous jusqu'à 5h30, ça veut dire qu'il reste seulement quelques minutes. C'est peut-être un peu la règle lorsqu'on saute une semaine puis qu'on vient en onde. On a une demi-heure à peu près pour se réchauffer puis se rappeler un peu comment faire puis prendre le rythme. Et puis ensuite, on en a trop à dire. C'est un peu ce qui arrive en ce moment. J'avais dit que j'allais vous parler de l'Anthology Film Archives de New York, qui est un lieu assez exceptionnel pour la préservation et la programmation de films, en particulier de films expérimentaux. J'aurais pas le temps de dire grand-chose, mais peut-être vous appâter et vous conseiller d'aller lire l'entretien avec Jonas Mekas, qui est à la tête, en fait, de ce sanctuaire du film expérimental en particulier, et laisser un peu vagabonder votre esprit à partir de quelques idées qui m'ont frappé dans l'entretien qu'il y a entre Jonas Mekas et les Cahiers du cinéma ce mois-ci. Mekas revient sur son travail au sein de l'Anthology Film Archives dès la fin des années 60. En fait, c'est un projet. Il y avait très peu de lieux pour diffuser du film expérimental à l'époque à New York, et c'est devenu finalement le lieu de référence dans le monde pratiquement pour ce qui est de la diffusion et surtout de la préservation des archives. Je pourrais peut-être simplement vous parler des débuts de la création de ce lieu, et ensuite j'y reviendrai plus tard dans d'autres émissions si Dieu me le permet, si le temps me le permet, si j'en ai envie. Quand le lieu a été fondé, en fait, il y avait d'abord une question de moyens qui était nécessaire. Aujourd'hui, l'Anthology Film Archives est situé sur la 2e avenue. Il a été acheté grâce, entre autres, par la donation d'un proche de Mekas qui était particulièrement fortuné, qui a soutenu aussi justement les Cahiers du cinéma à la fin des années 60, qui était sous le bord de la banqueroute. C'est un Américain cultivé du nom de Jeremy Hill qui a pu financer ce lieu. C'est dire comment la culture du mécénat aux États-Unis peut donner naissance à des lieux qui sinon seraient assez improbables. À la base, le projet du lieu était de constituer une banque de films et de préserver une série de films expérimentaux rares auxquels un petit comité, en fait, tenait absolument. Et ce comité-là était, entre autres, constitué de Mekas, donc que je nommais à l'instant, qui est aussi une figure de proue américaine d'origine lituanienne, figure de proue du cinéma expérimental, et critique majeur aussi, créateur d'une revue qui s'appelle Film Culture, qui a été essentielle pour le développement de la cinéphilie aux États-Unis dans les années 50. Et ensuite, en plus de Mekas, il y a Stan Brakhage, qui était peut-être le type dans le cinéma américain qui était le plus proche de la culture beat, de la beat generation, entre autres un ami de Ginsberg et de Kerouac, qui a fait des films abstraits, marqués par le jazz et l'inventivité formelle au niveau des couleurs. Mais c'est vraiment dire les choses rapidement que de décrire Brakhage comme ça, on fera une émission complète là-dessus à un moment donné. Et Peter Kubelka, qui est donc un cinéaste autrichien, qui est déjà venu à Montréal il y a quelques années, qui est quelqu'un d'assez extraordinaire, qui a fait quelques films très formalistes, je dirais, et qui travaille au niveau de la couleur. Donc, entre autres, il y avait ces trois-là qui étaient présents pour sélectionner une série de films. Mais la constante, en fait, tout au long de cette sélection, ça a été la mésentente courante qu'il y avait entre eux, de telle sorte qu'il était très difficile de sélectionner ne serait-ce qu'une liste de films à préserver. Et à partir de cette mésentente, les gens, plusieurs membres sont partis. Brakhage était le premier qui refusait presque systématiquement tout ce que proposaient les autres. Il est extrêmement difficile. Peut-être avait-il seulement envie de se concentrer sur son travail. Mais peu à peu, ce lieu-là s'est développé de telle sorte qu'à la fin des années 70, il était, par exemple, le premier lieu où on accueillait un festival de films grecs, ou un festival de films gays et lesbiens. Le premier au monde a eu lieu là. Donc c'était un espace non seulement pour l'avant-garde et pour le cinéma expérimental, mais peu à peu un espace où il était possible de créer une nouvelle manière de faire des festivals et une nouvelle manière de faire de la programmation. Je vous invite fortement à aller lire cet entretien avec Mekas qui se trouve à la fin des Cahiers du cinéma, qui est comme la cerise sur le sundae de ce numéro. J'en parlerai peut-être un peu plus abondamment la semaine prochaine, mais pour l'heure, je vais devoir vous laisser et vous dire que dans quelques instants, l'émission rétrogardiste s'en vient. Merci d'être là. On se revoit la semaine prochaine.